RTL Info.
Le journal Myriam Widwer.
Bonjour, le gilet de sauvetage n'est pas optionnel. Le Bureau de prévention des accidents lance une nouvelle campagne de sensibilisation. Il insiste sur le port de l'accessoire et distille quelques précieux conseils. La fête des vignerons est aussi un défi sécuritaire. Le dispositif réfléchi par les organisateurs ainsi que les autorités communales et cantonales a été présenté hier à Vevey. Précision dans ce journal. Le peloton est à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est le jour de repos sur le Tour de France après la 10e étape qui a amené les coureurs à Albi. On fait le point sur les abandons. Du soleil à peine voilé par quelques cumulus, la météo ne varie pas beaucoup ces prochains jours. Un gilet pour sauver une vie. Le Bureau de prévention des accidents lance une nouvelle campagne de sensibilisation. Le BPA insiste sur l'importance de porter un gilet de sauvetage lors de l'utilisation d'une embarcation gonflable. En Suisse, à peine 8% des passagers de ce type d'embarcation enfilent un gilet, alors qu'en moyenne, 5 personnes se noient chaque année en naviguant sur un lac ou une rivière. Dans sa nouvelle campagne, le BPA insiste donc sur l'importance de cet accessoire et en profite aussi pour donner 6 conseils essentiels aux amateurs des plaisirs aquatiques. Nicolas Kessler, responsable presse du BPA.
Le premier, c'est certainement le port du gilet de sauvetage à partir du moment où vous naviguez en rivière. N'oubliez pas que lorsque vous naviguez avec des amis et que vous avez plusieurs embarcations, il ne faut jamais les attacher ensemble. En cas de pépin, vous risquez d'entraîner les autres embarcations avec vous. Renseignez-vous si, par exemple, vous désirez aller à Berne, descendre là. Renseignez-vous sur Internet ou sur un office du tourisme où vous pouvez entrer dans l'eau, où vous pouvez sortir. N'improvisez pas, on sait à quel point tout à coup les cours d'eau peuvent être dangereux. N'attachez pas les enfants au canot pneumatique. On pourrait avoir le réflexe de dire comme ça, s'il tombe à l'eau, nous pouvons les récupérer. Mais l'enfant peut aussi se retrouver sous le bateau, coincé sous une pierre et c'est très dangereux. Se protéger de la chaleur et du froid, il y a de fortes différences de température hors de l'eau, dans l'eau, risque de choc thermique. Et puis certainement que lorsque vous avez passé un après-midi avec des amis, vous avez envie de boire un verre, de boire une bière, mais profitez pleinement de cette bière après avoir fait votre sortie et pas pendant. Le risque d'accident augmente avec la consommation d'alcool lorsque vous êtes sur l'eau.
Des propos recueillis par David Sanchez. Le BPA collabore également avec la Société Suisse de Sauvetage, la ville de Berne et sa police dans la campagne Arrêt Youssef. Son but étant d'insister sur le port du gilet lors de nombreuses descentes de l'art en bateau gonflable. La fête des vignerons va mettre une partie de son dispositif de sécurité à l'épreuve. Le concept d'évacuation de l'arène va être testé ce soir au terme de la deuxième répétition générale du spectacle. L'objectif visé, faire sortir 20 000 personnes et les figurants en 18 minutes maximum. Et l'enjeu est grand. De la réussite de l'opération dépend le permis d'exploitation de l'arène. Outre cet exercice, le dispositif de sécurité de la fête est fin prêt. Il a été présenté hier à Vevey. En tout, ce sont 400 à 600 personnes qui seront mobilisées. Parmi les mesures principales, la mise en place de plus de 40 caméras de surveillance, un logiciel d'évaluation des flux de personnes, mais aussi des patrouilles. Quelles sont les plus grandes craintes du responsable du dispositif à 2 jours du coup d'envoi de la fête? La réponse de Denis Froidevaux, chef de l'état-major de conduite.
J'en ai 2, c'est les mouvements de foule qui, compte tenu de l'exiguïté des lieux et de la densité des personnes présentes, à certains moments peuvent vraiment nous poser des soucis et avoir des conséquences relativement graves. L'autre, c'est évidemment un événement lié à un acte terroriste isolé qu'on ne peut pas exclure, personne ne peut l'exclure. C'est-à-dire soit un déséquilibré, pas forcément quelqu'un qui appartient à un mouvement terroriste, mais qui tout d'un coup sort un couteau, fonce dans la foule avec un véhicule ou des choses comme ça. Et c'est clair qu'à ce moment-là, on nous dira « Mais comment ça, vous n'avez pas prévu ça? Vous auriez dû, il fallait, il y avait qu'à, etc. » Et ça, c'est évidemment des choses qui sont impossibles à prévoir. Et c'est pour ça que notre ambition, c'est d'avoir la vue d'ensemble la meilleure possible pour pouvoir anticiper et réagir. On est beaucoup aidé par les services de renseignement de la Confédération et du canton par rapport à l'analyse terroriste. Il y a peut-être un troisième élément qui m'inquiète plus que les autres, c'est la multiplication des cas sanitaires, parce que j'ai l'impression que si on est confronté à une canicule, ce qui semble ne pas devoir être le cas dans les prochains jours, mais couplé avec la moyenne d'âge des visiteurs, une surconsommation d'alcool, 3h30 au fond de l'arène, on risque d'avoir un nombre de malaises très important, puis là aussi on n'a pas le droit de se planter.
En tout, le dispositif sécuritaire de la fête des vignerons devrait coûter environ 5,5 millions de francs. Arrimer des wagons-couchettes aux trains de marchandises qui circulent la nuit à travers l'Europe, c'est l'idée d'une association franco-suisse qui entend faire la promotion des déplacements en train de nuit entre les villes européennes, ce pour concurrencer l'avion pollueur. Cette association est persuadée que son projet LunaJet peut être rentable. Elle lance d'ailleurs une étude de faisabilité. La vice-présidente de l'association, la conseillère nationale verte libérale, Isabelle Chevalet.
Cette idée, elle est venue de passionnés des trains français qui cherchent des solutions pour rendre les trains de nuit rentables. Évidemment, le but de cette concurrence, c'est l'avion, c'est de montrer que voyager en train de nuit, c'est tout aussi confortable, c'est même plus confortable que l'avion et c'est pas plus cher.
On sait les difficultés horaires, souvent, de ces convois de transport de fret. Est-ce que c'est compatible, ça, avec une offre de transport de voyageurs de nuit?
Ce problème existe la journée, en effet, parce que des trains plus lents, et lorsqu'il y a les intercities, eh bien, il faut pouvoir laisser passer les trains rapides. La nuit, on n'a pas ce problème, puisque les intercities ne circulent pas. Et dès lors, ça laisse de la place, justement, pour ces trains marchandises. Ces marchandises, d'ailleurs, qu'on demande toujours à passer de la route au rail. Et c'est vraiment une occasion multiple, et pour les voyageurs, et pour les marchandises, de se déplacer de manière écologique.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Les CFF accueillent cette proposition plutôt froidement, mettant en avant les écueils techniques. Les CFF préfèrent collaborer avec la compagnie autrichienne ÖBB, qui exploite déjà des trains de nuit. La candidate à la présidence de la Commission européenne promet un Green Deal pour l'Union européenne dès les 100 premiers jours de son mandat, si elle est élue. L'Allemande Ursula von der Leyen a dit souhaiter mettre en place la première loi européenne sur le climat et faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050. Son discours sera suivi d'un vote sur sa candidature en fin de journée. Elle a par ailleurs affirmé être prête à un nouveau report du Brexit, actuellement fixé au 31 octobre. En cas d'élection, Ursula von der Leyen serait la première femme à occuper la présidence de l'exécutif de l'Union. Quelques 770 000 personnes dans le monde sont mortes de maladies liées au sida en 2018. Cela représente une baisse d'un tiers depuis 2010. C'est ce que révèle le rapport annuel de l'ONU Sida publié aujourd'hui. En outre, plus de 3 séropositifs sur 5 dans le monde suivent des traitements antirétroviraux. C'est la plus haute proportion jamais atteinte. Et il n'y a pas d'âge pour partir à l'aventure. 4 enfants âgés de 10 à 14 ans ont fait main basse sur un 4x4 et parcouru 1000 km sur les routes d'Australie avant d'être attrapés par la police. Ils ont volé la voiture de l'un des parents et embarqué argent liquide et canne à pêche avant de partir en vadrouille. Le véhicule a été intercepté par les forces de l'ordre 11 heures après son départ. Des milliers de postes de télé allumés, des milliers d'yeux rivés, tantôt sur l'écran, tantôt vers le ciel. Le 20 juillet 1969, l'homme posait pour la première fois un pied sur la Lune et les images étaient retransmises dans les médias. La plus célèbre d'entre elles, une photo mythique de Buzz Aldrin et du drapeau américain planté sur la Lune. Caroline Toussaint vous propose de revivre ce 20 juillet 1969 et de revenir sur la polémique qu'a entraîné cette fameuse photo.
Il est 3 heures du matin en Europe, c'est une belle nuit d'été. Ceux qui ne dorment pas gardent un œil sur la Lune qui brille très fort. Mais pas très loin d'eux, il y a aussi le poste de télévision qui est allumé. Les éveillés du monde entier s'apprêtent à vivre un moment historique.
La caméra doit fonctionner automatiquement. La caméra qui est à l'intérieur du mésar.
C'est bien ce que nous avons entendu, Jacques. Donc, Mesa a baissé, OK pour la télévision. Réponse de Houston.
À des milliers de kilomètres de la Terre, 384 400, très précisément, la fusée Apollo 11 s'est posée sur la Lune, à son bord. Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Une petite échelle est déployée depuis leur navette. C'est Armstrong qui descend le premier. Quand il pose son pied sur la Lune, il dit alors une phrase qui restera gravée dans les mémoires du monde entier. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Son coéquipier Buzz Aldrin le rejoint vite. Les astronautes profitent d'être les premiers à fouler le sol lunaire. Ils gambadent, chantent. Ils voient la Terre toute petite si loin d'eux. Et puis ils ne manquent pas de montrer d'où ils viennent. Buzz Aldrin plante un drapeau américain sur le sol désertique de la Lune. C'est là que Neil Armstrong en profite pour immortaliser ce moment mythique. C'est la photo de l'homme sur la Lune. Une image emblème de la conquête de l'espace par les États-Unis. On y voit les pas des Américains imprimés dans la poussière lunaire, Buzz Aldrin dans sa combinaison spatiale et surtout la bannière étoilée, le drapeau américain qui flotte. Mais de nombreux sceptiques ne veulent pas croire à l'alunissage. Pour eux, les Américains ont tout inventé pour frimer. Pendant longtemps, on a entendu dire que cette image n'était qu'une supercherie photographiée en studio. Mais c'est vrai ça. Comment le drapeau pouvait-il flotter alors que sur la Lune, il n'y a pas de vent ? À vrai dire, si l'on regarde bien l'image, on remarque que deux tiges maintiennent la fameuse bannière, l'une à la verticale, l'autre à l'horizontale, de quoi déployer le drapeau bien comme il faut pour montrer que les Américains ont pensé à tout. Mais les conspirationnistes ne s'arrêteront pas là. Pour eux, les ombres sur la photo ne sont pas naturelles. Pour les scientifiques, cependant, rien de plus normal. Le sol lunaire est désertique. La lumière du soleil peut donc venir de n'importe quel côté et ainsi créer des ombres dans tous les sens. Alors, photo réelle ou fake news ? La majeure partie des experts et scientifiques s'accordent avec la NASA et croient à l'alunissage. Pour eux, les enregistrements, les films et cette photo du 20 juillet montrent bel et bien qu'en 1969, l'homme a posé pour la première fois son empreinte sur la Lune.
Demain, dans notre série lunaire, nous nous plongeons dans l'imaginaire collectif lié à la Lune.
Il est 12h27.
Sport. Séjour de trêve sur le Tour de France après l'arrivée à Albi lors de la 10e étape. Les coureurs s'octroient une pause bien méritée. Le Français Julian Alaphilippe va donc passer une journée supplémentaire dans son maillot jaune de leader. De son côté, le reste du peloton va chercher à récupérer des forces. Sur la route du Tour, on fait le point sur la journée de repos avec notre confrère de RMC Sport, Arthur Perrault.
Première pause pour la grande boucle après déjà 10 étapes. Dans cette édition 2019, l'équipe du Tour de France se repose aujourd'hui à Albi, une terre du rugby qui devrait permettre aux 171 membres qui composent le peloton de se ressourcer. Une journée où chacun a ses coutumes, pour les uns encore et toujours du vélo. Un bon moyen pour que l'organisme ne coupe pas totalement avec le rythme habituel. Pour les autres, une bonne sieste dans l'après-midi sous les 31 degrés qui s'abattront sur le Tarn. Mais cette parenthèse en Occitanie permettra aussi au groupe de panser les plaies. Les soigneurs ne seront pas en reste, surtout dans le team Wanty-Gobert, avec un Johan Ofredo malade depuis vendredi dernier. La faute à une climatisation en panne dans son hôtel. Le francilien s'est quand même accroché depuis pour rallier à chaque fois la ligne d'arrivée dans les délais. D'autres n'ont pas eu cette chance. Déjà deux retraits dans l'écurie Cofidis avec Nicolas Hédé et Christophe Laporte. On retiendra surtout la sortie de Patrick Bévin de l'équipe CCC. C'est lui qui a inauguré le tableau des abandons de cette 106e édition. Une liste qui n'a pas fini de s'allonger. L'an passé, 31 coureurs ont jeté l'éponge avant les Champs-Élysées.
La 11e étape se tiendra demain entre Albi et Toulouse sur 167 km. Le navigateur genevois Alain Roura peut toujours rêver de battre le record de la traversée de l'Atlantique Nord sur un monocoque. À la mi-journée, il est en avance de 93 000 nautiques. Au pointage de 10h55, le genevois et son bateau La Fabrique se trouvaient à 965 000 nautiques de l'arrivée au Cap Lizard, dans les Cornouailles. Le record détenu depuis 2013 par le français Marc Guillermo est de 8 jours, 5 heures, 20 minutes et 20 secondes pour accomplir la traversée de 2800 000 nautiques, soit 5333 km entre New York et l'arrivée. Et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations fait vibrer tout un pays. Les autorités algériennes ont mobilisé 28 avions pour transporter 4800 fans pour la finale face au Sénégal vendredi au Caire. La mise en place de ce pont aérien qui utilisera des avions de différentes compagnies ainsi que des appareils militaires a été décidée hier par le Premier ministre.
Quelques nouvelles du ciel juste avant d'ouvrir le carnet rose.
Elles sont bonnes, ces nouvelles du ciel, pour autant que vous aimiez l'été. Hein. Un ciel bleu, un soleil généreux au programme de ce mardi. Quelques voiles d'altitude en fin de journée, quelques cumulus cet après-midi, mais rien de bien méchant dans le ciel de la région. Et des températures qui grimpent. 22 degrés cet après-midi dans les montagnes neuchâteloises, 24 degrés dans le Val de Rue et le Val de Travers, 26 degrés à Neuchâtel, Payerne et Yverdon. Et ce sont les mêmes prévisions estivales qui nous attendent en tout cas jusqu'à vendredi. Les quelques cumulus qui devraient se développer sur les crêtes ne donneront pas d'orage. Et puis les températures seront de plus en plus chaudes. 23 à 28 degrés demain après-midi, 23 à 27 degrés jeudi après-midi, 24 à 29 degrés vendredi après-midi. Le week-end s'annonce tout aussi beau et chaud, avec parfois quelques orages cette fois qui pourront éclater sur les reliefs en fin de journée.